Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Amour, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Mais au fait, qui a été élu président de la République dimanche dernier ? Emmanuel Macron, certes, mais qui est Emmanuel Macron ? Beaucoup de choses ont été écrites sur lui depuis 2 ans et pourtant, au moment d'essayer de caractériser ce que sera sa politique, c'est l'incertitude qui domine. Non pas que le nouveau chef de l'État n'ait pas bâti sa victoire sur un programme, dont l'absence lui fut longtemps reprochée, mais l'ensemble des propositions qui s'y trouvent échappent aux classifications classiques, un positionnement ni à droite ni à gauche assumé par l'ancien candidat. Cette difficulté à positionner Emmanuel Macron sur l'échiquier politique peut, paraît-il, être résolue grâce au diagramme de Nolan. Alors à quoi ressemble ce diagramme ? Eh bien, sur l'axe vertical, il y a l'attention portée aux libertés individuelles. Sur l'axe horizontal, celle liée aux libertés économiques. Résultat, Emmanuel Macron s'inscrit plutôt dans le cadran supérieur libéral, selon le site Contrepoint. Alors, libéral d'accord, mais de quel libéralisme Macron est-il le nom ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à 3 invités. Et je précise tout de suite à nos auditrices et à nos auditeurs qu'il ne s'agit pas d'une émission pour ou contre le libéralisme. Est-ce qu'il faut l'encourager ou est-ce qu'il faut le combattre ? Ça, on a l'occasion d'organiser régulièrement des débats autour de ces questions, mais bien un examen de la nature du libéralisme porté par Emmanuel Macron. Et donc, pour en discuter, 3 invités. Alexis Vintray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du journal en ligne Contrepoint, journal qui couvre l'actualité française et internationale sous l'angle libéral. C'est comme ça que vous vous présentez sur Internet. Un des derniers articles que vous signez, vous n'êtes pas le seul hein, évidemment à contribuer à ce site, dont vous suggérez de laisser sa chance au produit Macron. On va avoir l'occasion d'expliquer ce qu'est la nature de ce produit. Pour discuter avec vous, justement, Speranta Dumitru, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris Descartes. Qu'est-ce que le libéralisme égalitaire ? Comprendre la philosophie de Macron. C'est un article que vous avez signé sur le site The Conversation, qui est un site qui regroupe un certain nombre de contributions d'universitaires. Je crois que l'article a ensuite été repris sur un autre site, c'est sur Slate.
Sur Slate, sur JDD.
Voilà. Et c'est comme ça qu'on vous a repéré et et c'est la raison pour laquelle on vous a convié à cette discussion ce soir. Le 3e invité, c'est Jérôme Perrier. Bonsoir.
Bonsoir.
Historien, spécialiste de l'histoire du libéralisme français. Vous êtes chargé de conférences à Sciences Po Paris et à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et puisqu'on évoque les contributions des uns et des autres, j'évoquerai celle que vous avez signée dans Libération. C'était au mois d'avril dernier. On peut être de gauche et soutenir Emmanuel Macron. C'est ainsi qu'était signée cette contribution. Alors, je voudrais démarrer avec vous par un rapide tour de table. On va faire comme si vous répondiez à un institut de sondage. Emmanuel Macron est-il libéral ? Je vous propose 3 réponses. La première, oui, assurément. La deuxième, non, pas du tout. La troisième, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous choisiriez quelle réponse, Jérôme Perrier ?
Disons, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Plus sérieusement, je pense que pour répondre à cette question, il faut préciser d'emblée qu'il n'y a pas un libéralisme, mais qu'il y a des libéralismes. Ou plus exactement, je dirais qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une famille libérale, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir des points de vue très différents sur certaines questions, mais qui peuvent s'entendre sur quelques grands principes. Par exemple, l'état de droit, la liberté individuelle ou la tolérance. De ce point de vue, il me semble que Emmanuel Macron est pleinement libéral. Après, bien entendu, certains trouveront qu'il a un libéralisme très tiède, d'autres au contraire, un libéralisme débridé. Après, c'est question d'appréciation.
Je me doutais que vous auriez du mal à répondre de manière courte finalement à cette première question. C'est toujours évidemment réducteur et je l'ai fait à dessein. Est-ce que vous auriez finalement la même difficulté, Alexis Vintray, ou en tout cas, est-ce que vous donneriez la même réponse que Jérôme Perrier ? C'est-à-dire, ça dépend de quel libéralisme on parle ?
Écoutez, je pense qu'il va y avoir beaucoup de Normands ce soir, probablement. C'est-à-dire que ce n'est pas assurément du libéralisme, ça n'en est pas non plus très éloigné. C'est-à-dire que pour moi, ça n'en est pas vraiment, mais c'est très proche. Et je dirais que c'est un registre, on tourne autour du registre de la social-démocratie, d'une social-démocratie moderne, ou tout simplement une mise à niveau, en fait, de la gauche française vers l'acceptation de l'économie de marché. Le vrai sujet, c'est est-ce que oui ou non, ça suffit à en faire du libéralisme ? Je pense qu'il y a trop d'objections sur le, je dirais la place laissée à la planification ou du service militaire qui font que, grosso modo, c'est un énorme progrès et ce n'est pas pour autant du libéralisme.
Alors on s'en éloigne peut-être un petit peu plus qu'avec Jérôme Perrier. Pour vous, Esperanza Dumitru ?
Pour moi, c'est un libéral égalitaire à la manière dont John Rawls, le philosophe du XXe siècle, a été. Il associe, comme lui, la liberté et l'égalité, des chances. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Donc pour moi, ça ne fait pas de doute que c'est un type de libéralisme qu'on connaît en philosophie politique. Une philosophie politique diffusée à l'échelle internationale.
Alors on va évidemment évoquer ce libéralisme égalitaire qui caractérise, selon vous, Emmanuel Macron, dans son programme pas seulement économique, hein, mais c'est de manière plus globale. Mais est-ce que vous considérez les uns et les autres qu'il est peut-être justement alors nécessaire de définir, de redéfinir ce qu'est le libéralisme, et du fait de sa diversité, et aussi peut-être du fait de la méconnaissance qu'on peut avoir par rapport à ce courant de pensée qui, pour autant, a de vraies racines ici, chez nous, en France, Jérôme Perrier.
Oui, alors comme je disais tout à l'heure, hein, il faut parler de libéralisme au pluriel. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, si je devais essayer de retracer la genèse du courant libéral dont il relève, je crois que je remonterai à John Stuart Mill. Je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron soit un lecteur de John Stuart Mill, mais quand on le lit, on pense immédiatement à cet auteur. Alors, en deux minutes, hein, j'explique pourquoi John Stuart Mill. C'est un auteur qui est essentiel dans l'histoire du libéralisme parce qu'il fait au fond la jonction entre ce qu'on appelle le libéralisme classique et ce que l'on appelle ensuite le nouveau libéralisme qui donnera, par exemple, le blairisme en Angleterre il y a une vingtaine d'années. Hein, la troisième voie qui était théorisée par le sociologue Anthony Giddens. Alors, la rupture de John Stuart Mill par rapport au libéralisme classique, elle est triple. D'abord, il passe de l'individu à l'individualité, c'est-à-dire de l'individu conçu comme un atome social doté de droits naturels à une individualité qui est la réalisation d'un projet, qui est la construction par l'individu d'un projet de vie, la réalisation de potentialités. Et ça, quand on lit Emmanuel Macron, en particulier son ouvrage Révolution, c'est absolument permanent. Hein, il relève absolument de cette logique-là. Alors, la deuxième rupture qu'opère John Stuart Mill, c'est qu'on passe avec lui de la liberté négative à la liberté positive. La liberté négative, c'est la liberté du libéralisme traditionnel, ce que les anglo-saxons appellent « freedom from ». Autrement dit, être libre, c'est échapper à l'oppression, échapper à la domination. Et avec John Stuart Mill, on va passer à ce que l'on appelle la liberté positive. Non plus « freedom from », mais « freedom to ». C'est-à-dire la liberté de faire quelque chose, d'accomplir un projet de vie. Et de ce point de vue, là encore, c'est quelque chose que l'on retrouve chez Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il parle de l'État comme investisseur social, c'est-à-dire comme celui qui, enfin, comme l'institution qui doit aider l'individu à réaliser ses projets. Donc, on voit très bien qu'avec John Stuart Mill, l'État n'est plus simplement une menace, comme dans le libéralisme classique, mais au contraire un instrument pour aider l'individu à réaliser ses projets. Et il me semble que de ce point de vue, Emmanuel Macron s'inscrit pleinement dans ce courant, puisque, alors, il faut reconnaître aussi qu'Emmanuel Macron est un inspecteur des finances, donc il ne faut pas s'étonner si son libéralisme est assez statophile. Mais ça relève aussi de cette logique-là, me semble-t-il.
On évoquera justement la place de l'État dans la philosophie politique et économique d'Emmanuel Macron. Vous faites donc en tout cas remonter les racines du libéralisme macronien. Je ne sais pas si un jour ce sera un terme qu'on utilisera, un adjectif qu'on utilisera pour distinguer ce libéralisme des autres au XIXe siècle. Pour vous, donc, Esperanza Dumitru, c'est un peu plus récent, c'est un autre John, c'est John Rawls. Là, on est au XXe siècle. Et quelles sont les similitudes que vous avez trouvées entre la philosophie de John Rawls et ce que dit, puisque vous avez beaucoup, manifestement, écouté les discours du candidat Macron pendant la campagne, quelles sont les similitudes que vous avez trouvées?
Alors, les premières similitudes n'étaient pas avec John Rawls. Enfin, il se trouve que j'ai découvert le candidat Macron en écoutant par hasard un dimanche un discours, le discours de Toulon, où il parlait de la capacité des individus à faire et à réaliser leurs projets. Et je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui connaît Amartya Sen. Amartya Sen, c'est un philosophe et un économiste, prix Nobel d'économie, qui a inspiré, entre autres, l'indicateur de développement humain qui est appliqué depuis, qui est mesuré depuis 1990 par le PNUD pour mesurer les progrès que font les pays en termes de lutte contre la pauvreté.
Donc voilà, le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement.
Pour le développement. Donc je me suis dit, tiens, quelqu'un qui est un capabilitariste, parce que c'est comme ça qu'on appelle l'approche qu'a développée Amartya Sen, l'approche des capacités qui est très développée, il y a des revues, etc. Très institutionnalisé. Et ensuite, en travaillant davantage, il m'a semblé qu'il est plutôt rawlsien que sénien, si je peux utiliser cet adjectif. Pourquoi ? Parce qu'il est important pour lui de parler de l'égalité des chances, du fait que chacun, et d'ailleurs même lui-même, il se décrit comme quelqu'un qui a eu la chance. C'est la chance parfois qui l'a fait gagner. Et donc, c'est très important. Le premier slogan qu'il a utilisé pour la campagne, c'était « La France doit être une chance pour tous ». L'un des premiers, je ne sais pas si c'est la première vidéo, c'était une vidéo avec Charles Rozoy, qui est quelqu'un qui, après un accident, est devenu champion de paralympique en 2012. Donc, donc qui a réussi à passer outre les accidents et les malchances. Et donc, pour lui, l'enjeu, selon moi, c'est de comment donner des chances à tous. Donc c'est en ce sens-là qu'il relève d'un courant qu'en anglais on appelle lack egalitarianism, qui a été influencé par John Rawls.
Alors Alexis Vintrey, donc vous qui dirigez ce site Contrepoint, qui est un peu le gardien du temple de la pensée libérale ou des pensées libérales, puisqu'elles sont plurielles, je plaisante un petit peu, est-ce qu'en tout cas cette question de l'égalité des chances, elle est constitutive justement du libéralisme? Et est-ce que vous la voyez aussi forte que nos autres invités, notamment Esperata Dumitru, dans ce que propose Emmanuel Macron?
C'est pour moi évidemment un discours qui est très présent dans toute la rhétorique d'Emmanuel Macron. Effectivement, on le constate un petit peu à chaque discours. Ce qu'on note quand même beaucoup sur la question de l'égalité, c'est que on revient beaucoup à une égalité de résultats quand même, pas autant que dans d'autres courants de la gauche effectivement, mais il s'agit de donner les moyens à chacun de réussir. L'égalité du libéralisme, c'est une égalité en droit. C'est donner à chacun les droits, les mêmes droits pour qu'ils puissent les utiliser de la meilleure des manières. Partir dans une logique...
Peu importe comment ces droits sont utilisés.
Tant que c'est dans une manière légale et j'ai envie de dire oui. Mais globalement quand même, c'est laisser les moyens. À partir du moment où on rentre dans une logique d'égalité de résultats ou de pas juste de pour moi où on quitte ce registre du droit de faire quelque chose au droit à faire quelque chose, on s'éloigne beaucoup du libéralisme. Mais il faut quand même un peu couper les cheveux en quatre pour réussir à rattacher ça d'une manière ou d'une autre. On peut toujours y arriver, mais par exemple sur Macron, j'ai même lu des articles dans la presse, le libéralisme planificateur de Macron. Il y a juste un moment où les termes ont un sens. Et il y a des aspects libéraux. Il faut savoir derrière si c'est un autre terme, peut-être l'inventer. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit 100% libéral qui soit adapté là-dessus. En particulier, puisqu'on parlait d'égalité, le fait qu'on s'éloigne un peu de l'égalité en droit, mais qu'on rentre vraiment dans l'égalité de moyens.
Est-ce que vous êtes d'accord avec les réserves que vient d'exprimer Alexis Vintrey,
Jérôme Perrier? Oui, alors je dirais que Alexis Vintrey ici illustre assez bien ce que je disais tout à l'heure quand je distinguais le libéralisme classique qui résonne en termes d'égalité des droits, ce qui est tout à fait juste, et ce que j'ai appelé le nouveau libéralisme à partir de John Stuart Mill et ensuite développé dans ce qu'on appelle le New Liberalism en Angleterre avec des gens comme Thomas Green ou Leona Hobhouse. L'égalité des chances, si vous voulez, chez Macron, ça relève de la discrimination positive. Il est très clair là-dessus, quand on lit son programme et quand on lit son ouvrage Révolution, il ne cesse de répéter que ce qu'il appelle l'égalité réelle, ça ne consiste pas, il l'écrit en toutes lettres, à offrir la même chose à tout le monde. Au contraire, ça consiste à offrir davantage à ceux qui ont moins, et en particulier, soit à ceux qui souffrent d'un handicap de pauvreté, on va dire, soit ceux qui souffrent d'une discrimination raciale ou sexuelle. Donc, Emmanuel Macron, ici, développe une logique qui relève de la discrimination positive et qu'effectivement, c'est une logique qui hérisse certains libéraux, ce que je peux comprendre aussi parce qu'on l'a vu aux États-Unis, c'est une logique qui peut parfois conduire à certaines dérives. En tous les cas, chez Emmanuel Macron, c'est une logique qui est parfaitement assumée et sur laquelle il ne cesse de revenir. C'est la raison, c'est au nom de cela, par exemple, qu'il propose une prime pour les entreprises qui embauchent des salariés venant de quartiers difficiles, qu'il propose une prime pour les enseignants qui accepteraient volontairement d'aller travailler dans des établissements de quartiers difficiles ou qu'il propose pour les classes de CP et de CE1, des classes à 12 élèves et non pas, comme c'est un peu le cas quand même dans l'éducation nationale en France, où on a parfois l'impression d'être à l'époque de Napoléon qui voulait, vous le savez, que tous les lycéens de France, à la même heure, planchent sur la même dissertation et sur le même sujet.
Est-ce que c'est aussi au nom de cela que le lieu de sa déclaration de candidature le 17 novembre dernier n'a sans doute pas été totalement choisi au hasard? Petit rappel, c'était dans le journal de France 3 le 17 novembre.
Ce matin, Emmanuel Macron a mis fin à un faux suspense. Dans un lieu symbolique, un centre d'apprentissage de Bobigny, il annonce sa candidature à la présidentielle. Une décision, rajoute-t-il ce soir, irrévocable, même si François Hollande se lance dans quelques semaines.
Quand on prend ce type de décision, avec ce qu'elles emportent de gravité pour le pays, compte tenu du moment que nous vivons et sur le plan personnel, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et donc, ça n'est en aucun cas une décision provisoire. Oui, c'est une décision irrévocable.
Voilà, alors on a choisi seulement une trentaine de secondes de l'extrait de ce reportage qui était vraiment consacré à l'événement du moment. C'était cette déclaration de candidature, était noyée dans la présentation, mais comme dans la plupart des reportages, le lieu, un centre d'apprentissage à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça participe, ça, justement, a priori? Parce qu'on a certains, ceux qui avaient relevé le fait que ça se passe ici, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu gadget. Est-ce que c'était du gadget ou est-ce que c'était quelque chose qui témoignait, justement, de cette approche d'un libéralisme qu'on pourrait peut-être aussi qualifier de social? Vous parlez de libéralisme égalitaire, mais peut-être libéralisme social, Sperinta de Metro?
Oui, en effet. Je voulais juste revenir sur la question qu'on a évoquée tout à l'heure sur la discrimination positive. Bien sûr, d'une part, il l'assume, mais ce sont des mesures antidiscriminatoires et des mesures sociales. Par exemple, le fait de diviser par deux les classes dans les zones défavorisées, ce n'est pas une mesure de discrimination positive. C'est pas ce qu'on appelle. Et donc, les mesures d'action affirmative sont quand même très peu nombreuses. Il y a sur la parité, il veut mettre de la parité partout. Il y a des mesures antidiscriminatoires avec des mesures soft. Enfin, peut-être on n'aura pas le temps, mais il y a des choses qui relèvent du nudge, des méthodes douces pour imposer des changements sociaux importants, par exemple.
Mais peut-être que justement la valorisation de l'apprentissage, ça participe de ces méthodes douces, non?
Aussi.
Jérôme Perrier, non?
Oui, je pense que il y a chez Macron cette idée que il faut rompre avec cette idée qu'il y aurait une forme d'intelligence, qu'il y aurait une manière d'être brillant qui serait de passer par telle filière d'élite, que on peut atteindre l'excellence dans des domaines très variés, avec des parcours très variés. Et moi, je suis ravi que vous ayez passé cet extrait parce que j'avais été très étonné au moment de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron que personne ne remarque effectivement le lieu d'où il faisait cette déclaration et qui me paraît tout sauf anecdotique. Et l'insistance qu'il met vouloir développer, j'allais presque dire, ennoblir l'enseignement professionnel est quelque chose qui me paraît tout à fait révélateur. Et pour connaître un petit peu un libéral comme Alain Madelin, c'est un sujet sur lequel il est tout à fait sur cette ligne.
Alexis Vintray, ensuite Sperata de Mitro. Alexis Vintray.
Oui, je vais tout à fait abonder dans ce sens. Globalement, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant et novateur. En France, c'est justement, enfin, même si Emmanuel Macron est par tous les aspects un produit de l'élite française, ne serait-ce que par ses études, il y a cette volonté effectivement de donner à ceux qui en France sont le plus dans le besoin les moyens de s'en sortir. Les propos qu'il a tenus qui ont fait polémique, il vaut mieux qu'un jeune de banlieue puisse être chauffeur Uber que de dealer. C'est clairement des choses qu'on n'entend pas assez dans la gauche sans lui et qui sont très encourageantes et qu'il faut vraiment encourager. Il y a une dimension valorisation de la réussite et donner les outils à chacun pour s'en sortir qui est une dynamique extrêmement positive.
Et qui relève du libéralisme, justement, cette approche-là.
Et qui, je pense, relève tout à fait du libéralisme. C'est aussi pour ça que je pense le sujet de l'émission est intéressant. C'est qu'il y a des aspects qui relèvent entièrement du libéralisme chez Macron. Il y en a d'autres qui n'en relèvent absolument pas. Et la question, c'est, au global, bon, c'est un problème politique, est-ce qu'on arrive à le ranger dans une case d'idéologie facilement? Je ne pense pas que ce soit le cas, mais il y a des aspects définitivement très intéressants pour les libéraux.
Sperata de Mitro.
Il me semble que la case, moi, quand j'ai écouté, moi, j'ai fait ma thèse sur John Rawls, c'est quand j'ai vu l'un des discours, et on a l'impression vraiment que chaque principe, donc Rawls défend deux principes de justice sociale. Le premier, c'est le maximum de liberté de base pour tous, égal pour tous. Et le deuxième, c'est le fait de limiter les inégalités économiques de sorte à améliorer l'égalité équitable des chances, et ce qu'il fait. Et puis d'améliorer la situation des plus avantagés. Et pour moi, le programme, en tout cas le discours de Lyon, par exemple, est presque structuré.
Alors par c'était lequel, pardonnez-moi, le discours de Lyon, j'ai du mal à repérer ça dans le temps.
C'était en février, au début février, 4 février 2017.
D'accord.
Où il énonce chaque principe. Par exemple, il va parler de la laïcité qu'il veut comprendre comme une liberté de conscience compatible avec la liberté de tous et de toutes. Et il parle de la liberté d'association qui est présente dans son projet. Il veut donner des mesures, on ne va pas discuter ici, mais il y a des mesures intéressantes dans son projet pour les associations. Il va parler de la liberté de travailler, d'entreprendre et d'innover, qui est à la fois du libéralisme, mais aussi du socialisme. Et je pense qu'on ne doit pas faire ce distinguo entre les deux, puisque la liberté et l'égalité vont très bien ensemble, et il y a un théoricien qui l'a très bien montré.
Puisque vous avez utilisé ces deux termes de libéralisme et de socialisme, est-ce que vous diriez que Macron illustre, peut-être après d'autres, la possibilité d'avoir cette double appellation, Jérôme Perrier, ou c'est un peu audacieux?
Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec la troisième voie blairiste. C'est une forme de socialisme libéral. Alors, je pense que on pourrait débattre.
Ce qui fait sursauter, j'imagine, de nombreux socialistes.
Ou est-ce que c'est un libéral socialiste? Je crois que, et là, je rejoindrai tout à fait Alexis. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que Emmanuel Macron est un inspecteur des finances, un brillant. Ténarque, donc. Et donc, il a une vision quand même très française où l'État joue un rôle absolument, quand on lit son programme, par exemple, 50 milliards d'investissements publics, c'est quand même très étatique comme programme. Et ici, je voudrais renvoyer à une distinction que faisait Lucien Jaume, qui est un grand spécialiste du libéralisme, et qui distingue le libéralisme par l'État, qu'il appelle également le libéral-étatisme, qui a toujours été majoritaire dans le libéralisme français, alors qui remonte à Guizot au 19e siècle, au doctrinaire, qu'on retrouve au 20e avec, par exemple, le libéralisme avancé de Valéry Giscard d'Estaing. Et donc Lucien Jaume distingue ce libéralisme par l'État d'un libéralisme de l'individu qui a toujours été très minoritaire en France, même s'il a été représenté par des penseurs éminents comme Benjamin Constant ou, je ne peux pas faire une émission sans le citer, Alain, le philosophe Alain, sur lequel je travaille beaucoup, qui illustre ce libéralisme de l'individu. Alors pour revenir à Emmanuel Macron, indéniablement, il s'inscrit dans ce libéralisme par l'État qui est dominant en France,
qui est dominant. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser.
Lui-même minoritaire mais au sein du libéralisme français.
Justement, j'allais vous poser la question, c'est-à-dire est-ce que ce libéralisme par l'État, c'est une rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est plutôt une continuité ? On entend quand même beaucoup dans les discours, lorsqu'on parle de libéralisme, soit pour promouvoir ces idées, soit peut-être plus souvent pour les dénoncer, l'idée qu'il y a des idées libérales, qu'il y a des politiques libérales qui sont aujourd'hui mener des politiques publiques libérales.
En une seconde, hein, je ne veux pas monopoliser la parole, je dirais que c'est une rupture dans la continuité, comme dirait Giscard, qui était lui-même un bon représentant de ce libéralisme-là.
Alexis Vintré.
Oui, il y a effectivement une dimension de rupture dans la continuité. La rupture, elle est quand même beaucoup que c'est malheureusement le courant libéral, un courant qui n'est pas très présent à gauche en France, où la doctrine marxiste a quand même très vite pris le pas sur la gauche, et qu'on résume aujourd'hui gauche et marxisme. Et une partie de
l'ambiguïté. Elle n'est pas très présente, quoi, dans les idées ou dans le discours? Parce que c'est vrai qu'assumer on va dire, le qualificatif de libéral, on voit bien que c'est quelque chose de compliqué, ouais, à gauche.
Ben, quand elle est très peu présente dans le discours, elle peut être présente parfois de manière surprenante dans les actes. Hein. Parfois, il peut y avoir des mesures, même soit président Hollande, des mesures intéressantes.
Le revenu universel promu par Benoît Hamon,
non, je pense pas. Mais ouais, je pense que il y a de quoi, je pense, tenir quelques heures et faire beaucoup de débats là-dessus. Mais en tout cas, je pense que, juste pour conclure, l'aspect intéressant, c'est que ça s'inscrit à gauche, là où le libéralisme en France est plutôt inscrit à droite. Et ça peut donner des résultats, je pense, très intéressants pour favoriser une remise à niveau, enfin un renouvellement de la pensée de gauche, pas forcément qui s'appellerait libéral, mais qui serait quand même nettement plus moderne.
Esperanza Demetriou.
Alors, l'idée de revenu universel a été en fait inventée, pour ainsi dire, dans les années 80 par un libertarien de gauche qui s'appelle Philippe Van Parijs, qui est professeur à Louvain, et qui a défendu cette mesure, d'une part, pour les mêmes raisons, d'une certaine manière, que Benoît Hamon, d'une part parce que les transformations du travail, le chômage de masse l'imposait, et d'autre part, pour des raisons libérales, c'est-à-dire le fait qu'on devrait respecter le pluralisme et ne pas privilégier un mode de vie qui est axé, qui est centré sur le travail, d'un mode de vie qui préfère des activités qui ne sont pas rémunérées sur le marché. Donc, je pense que le problème est plutôt le fait de la non reconnaissance dans le Parti socialiste de la filiation libérale qui vient quand même du 19e siècle avec Charles Renouvier, avec Alfred Fouillet, avec Léon Bourgeois, Jean Jaurès. Donc, vous avez tout un courant libéral qui a été plus ou moins marginalisé, non méconnu au Parti Socialiste. Mais les deux, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous que le marxisme a pris le pas, et ça se voit aussi dans la critique du néolibéralisme. Je ne sais pas si on peut aborder cette question, mais la signification péjorative que le libéralisme a commencé à avoir dans l'espace public est inquiétante, avec le préfixe néo-ultra qui fait que maintenant on met un signe d'égalité entre le fascisme et le libéralisme, ce qui est peut-être pose problème pour ceux qui l'utilisent. On peut voir l'origine de ce mot et comment il a été mis sur le marché par les tendances foucauldiennes, souvent contradictoires.
Est-ce qu'il y a des raisons et des conditions historiques qui expliquent justement cette mise à l'écart ou cet effacement du libéralisme? Alors, à
oui,
gauche.
Oui, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste revenir sur deux petits points qui ont été évoqués. Je suis pas du tout certain que Emmanuel Macron soit favorable au revenu universel.
Non, je crois que
au contraire, son discours est très axé sur la revalorisation du travail.
Dans son programme,
donc je ne crois pas du tout que ce
le
soit
revenu universel.
Ouais. Là, on parlait de Benoît Hamon, en l'occurrence.
Ouais, d'accord. Ah, oui. Alors,
le libéralisme de Benoît Hamon. Le revenu universel, c'est une extension du RMI.
Une vraie courte.
Emmanuel Macron ne critique pas le RMI.
Cette fois-ci, en désaccord avec Alexis, quand vous dites que le libéralisme est en gros plutôt à droite qu'à gauche, historiquement, je ne suis pas d'accord, mais là, c'est l'historien qui parle. Historiquement, le libéralisme a été aussi souvent à gauche qu'à droite, si ce n'est d'ailleurs plus souvent à gauche. Les grands auteurs libéraux, les plus grands auteurs sont
oui,
à gauche.
À fait,
même
oui.
Frédéric Bastiat siégeait au centre-gauche à l'Assemblée nationale.
Oui,
je ne crois pas qu'on puisse faire plus libéral que Frédéric Bastiat.
Non, je parlais des quelques dernières décennies. Mais oui, on est tout à fait d'accord.
Et pour répondre alors cette fois-ci à votre question, quel est l'obstacle en France à j'allais dire, à la compréhension du libéralisme. Parce qu'au fond, le libéralisme en France, il est d'abord méconnu et il est totalement incompris. Je crois que l'un des éléments clés, c'est quand même notre rapport à l'État. Nous sommes dans un pays où l'État a de très longue date une place tout à fait singulière. Or, alors, j'ai parlé tout à l'heure du libéralisme étatique dont parle Lucien Jaume. Reste quand même que la philosophie libérale entretient un rapport à l'État qui est problématique. Alors, sans être libertarien ou anarcho-capitaliste, sans vouloir la suppression de l'État, force est de constater que quand on se veut libéral, au minimum, on a un point de vue, j'allais dire critique, sur la place de l'État. On peut être pour un État fort à condition que celui-ci se cantonne dans les domaines qui doivent être les siens. Or, en France, plus qu'un État fort, on a plutôt un État obèse et tentaculaire qui se mêle un petit peu de tout et qui, du coup, fait les choses assez mal. Et donc là, effectivement, la gauche française, qui est encore plus étatique, si je puis dire, que le français moyen, qu'il est déjà beaucoup, du coup, a du mal avec cette philosophie libérale qui est, qu'on le veuille ou non, critique à l'égard de l'État, en tous les cas de l'étatisme.
Alors justement, Alexis Vintrey, est-ce que c'est ce qui fait que le libéralisme de Macron n'est pas tout à fait du libéralisme à vos yeux, parce que la place de l'État et sa conception de l'État ne serait pas compatible avec cette philosophie? Il propose par exemple, alors c'est vrai qu'il y a ses origines, l'inspection des finances, j'imagine que ça marque dans un parcours politique, et puis il y a des mesures comme par exemple, l'étatisation de l'assurance chômage, qu'on a du mal là justement à qualifier de mesure libérale.
Oui, je pense que effectivement c'est tout à fait une remarque judicieuse. Effectivement, c'est un choix qui est très révélateur de cette volonté de liberté par l'État. Et elle se manifeste et dans les propositions, mais également dans l'absence de propositions sur certains sujets. Quand même, en France, un des sujets clés reste la question de la dépense publique. Et sans vouloir faire le rabat-joie libéral de service, même si je pense que il le faut parfois un peu, la France est quand même le pays dans l'OCDE qui dépense le plus. Et le seul point du programme d'Emmanuel Macron là-dessus, c'est « je vais baisser les dépenses publiques de 60 milliards ». Mais c'est une baisse.
Ce qui est pas rien quand même.
Mais c'est une baisse c'est une baisse de hauts fonctionnaires. C'est-à-dire que c'est une hausse moins forte que prévu. Donc, chez moi et chez n'importe quel Français, ça reste une hausse. Et donc, il y a cette dimension toujours très étatique et très. Il y a un petit aspect super techno en fait hein, chez Emmanuel Macron. Et je pense quand même que ça reflète plus, je dirais, l'état d'esprit de la haute fonction publique sur ce qu'il convient de faire, mais on y a un petit peu 30 ans de retard, quoi, sur la social-démocratie allemande, sur justement Tony Giddens ou Tony Blair. Est-ce que ce sera assez dans un pays où on part de niveaux qui n'ont jamais été atteints dans ces pays-là? Je pense que c'est un petit peu le gros enjeu ici.
Est-ce que je peux juste donner un conseil de lecture à nos auditeurs, puisqu'on est sur France Culture, l'historienne.
Parce qu'ailleurs, vous n'auriez pas donné de conseil de lecture.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je pensais à un ouvrage de l'historienne Nathalie Carré de Malberg, qui a fait sa thèse sur les inspecteurs des finances et qui montre très très bien à quel point le libéralisme d'un inspecteur des finances est un libéralisme que je qualifierais de modéré. En tous les cas, l'ouvrage est passionnant.
Voilà, on va le mettre sur notre site. La place de l'État, Sperinta Dumitru, dans la conception telle qu'on la comprend progressivement, qui est celle d'Emmanuel Macron, est-ce que ça peut apporter une limite à la comparaison que vous faites avec la philosophie de John Rawls et celle d'Amartya Sen? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît compatible par rapport à ce que vous avez pu lire et entendre?
Peut-être que ce n'est pas la question de la place de l'État ou de libéral ou non libéral. D'ailleurs, je me suis demandé après, en préparant cette discussion, si ces étiquettes plairaient aux militants d'En Marche, parce que ce que Emmanuel Macron me semble éviter, c'est surtout les étiquettes. C'est pas qu'il n'est pas ni de droite ni de gauche. La question, c'est qu'on se cantonne dans des débat idéologique sans regarder ce qu'on peut faire en fait pour donner plus d'opportunités, plus de capacités de faire aux gens. Donc c'est ce qui est le plus important. Donc après, la place de l'État, elle est celle qui est nécessaire pour donner plus de capacités aux gens et en particulier aux plus démunis. Donc il me semble que ces débats sur libéralisme, pas libéralisme, peut-être que ne sont nécessaires que pour les théoriciens que
pour
nous
les
sommes. Voilà, pour les universitaires, mais non pas pour le débat politique.
Et pour les auditeurs et les auditrices de France Culture.
My, oh my. C'est vrai qu'on est au 21e siècle.
Yes.
Quand est-ce que ça va bouger?
Pour faire enfin bouger la France, vous avez un rendez-vous, l'élection présidentielle. Et vous avez un pouvoir, votre bulletin de vote, dès le premier tour. Je vous propose de choisir les réformes fortes, les réformes modernes dont la France a besoin. Alors oui, il faut saisir ensemble cette élection présidentielle pour faire bouger la politique.
Pour libérer le travail et créer de vrais emplois, Alain Madelin s'engage.
À alléger le droit du travail et toutes les réglementations qui freinent la création d'emplois. À libérer le travail pour sortir du carcan des 35 heures obligatoires pour tous.
Laisser les partenaires sociaux organiser librement le travail dans l'entreprise pour travailler plus, travailler moins, travailler différemment.
Réduire le poids de la fonction publique en profitant du départ massif des fonctionnaires à la retraite.
Voilà, c'était le clip de campagne qui paraît très ancien quand on écoute ce son, et pourtant c'est pas si vieux que ça, ça date de 2002, il y a 15 ans seulement. Alain Madelin, qui était le candidat assumé du libéralisme, peut-être le dernier à avoir assumé politiquement cette appartenance, ça lui a pas beaucoup réussi. Bon, en 2002, on se souvient les conditions de cette élection, un peu moins de 4% des suffrages exprimés lors de cette présidentielle. Alain Madelin qui... aujourd'hui, avec peut-être certaines réserves, mais en tout cas, soutient Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un soutien qui vous paraît aux uns et aux autres cohérent, Alexis Vintré?
C'est un soutien qui est assurément cohérent avec les idées d'Alain Madelin, que j'apprécie beaucoup, et qui est en gros quand même très convaincu que le libéralisme n'a pas besoin de parti et qu'il faut encourager les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et effectivement, sous cet angle-là, hein, Emmanuel Macron est, j'ai envie de dire, un véhicule intéressant pour les idées libérales. Dans le sens où, à nouveau, il y a beaucoup de sujets très intéressants, pas toujours, qui ne vont pas nécessairement jusqu'au bout, hein, par exemple sur la réforme des retraites, mais il y a globalement beaucoup d'éléments intéressants et je comprends que des libéraux puissent tout à fait le soutenir. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit en fait dans nos lecteurs que c'est très réparti. Vous avez les libéraux de gauche qui aiment beaucoup Macron et se disent c'est un espoir pour transformer la gauche, les libéraux de droite qui crient à l'hérésie. L'intérêt, c'est qu'est-ce que ça va donner dans les faits dans les semaines à venir.
Gérard Perrier.
Oui, alors, pour bien connaître Alain Madelin, je ne suis pas du tout étonné par le soutien qu'il a apporté à Emmanuel Macron. Et à ce propos, je vais utiliser un terme qu'utilise souvent Alain Madelin, qui est le terme de libéralisme hémiplégique. Alain Madelin fait remarquer, et je suis entièrement d'accord avec lui, que la gauche française est très libérale dans le domaine des mœurs, dans le domaine culturel, on l'a vu par exemple avec le mariage pour tous, et très antilibérale dans le domaine économique. La droite, c'est l'inverse. Elle est libérale dans le domaine économique, en tous les cas quand elle est dans l'opposition, et sur le domaine, dans le domaine culturel, dans le domaine des mœurs, on l'a vu avec le mariage pour tous, elle l'est très peu. Et donc Alain Madelin, qui vient de la droite, se reconnaît assez bien, à mon sens, dans l'idée que le libéralisme est au-dessus de la gauche et de la droite.
Et est-ce que ça, Esperanta Domitrou, et ce sera la conclusion, voyamment, ça permet de classer la France sur l'échelle du libéralisme?
Si on parle de la liberté économique, moi ce que je voulais répondre d'abord, si on...
C'est vraiment la fin. Comme vous me faisiez signe hors micro que vous souhaitiez parler de l'indicateur de la liberté économique, c'est le moment ou jamais.
C'est pour dire qu'en fait, selon cet indicateur, la France se situe à la 72e position et la Suède, qui est un pays très égalitaire, se situe à la 19e position, le Canada à la 7e position, et ce ne sont pas des pays sauvagement libéraux. Et ce que je voulais dire, c'était justement que la liberté économique est aussi pour les pauvres et pour intégrer plus de monde sur le marché du travail.
Voilà, et la liberté à la radio, elle s'arrête à la pendule, puisqu'il faut qu'on passe l'antenne à ping-pong dans un court instant. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Esperanta Domitrou, Jérôme Perrier et Alexis Vintré, émission à réécouter sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. On se retrouve demain à partir de 18h20 pour poser la question suivante. Les zoos sont-ils en voie d'extinction ?